et appels sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Vous le savez, à cette heure-ci, tous les jours, RFI vous donne la parole. Dans un instant, ce sera votre rendez-vous quotidien avec la rédaction d'RFI. C'est ce rendez-vous privilégié. Vous avez des questions pour mieux comprendre l'actualité. Bien surtout, appelez-nous, n'hésitez pas. La rédaction se mobilise chaque matin pour vous répondre. Nos experts ici au sein de la rédaction, mais aussi nos envoyés spéciaux et nos correspondants permanents à travers le monde. Le principe est donc simple. Une question, eh bien un numéro de téléphone, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Et vous pouvez également nous envoyer vos questions par courrier électronique ou sur les réseaux sociaux, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone. C'est important car on a envie de vous entendre le matin sur l'antenne d'RFI. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat, et nous parlerons tout à l'heure des enjeux de l'élection présidentielle au Togo. C'est la dernière ligne droite de la campagne électorale avant le scrutin de samedi. 5 candidats sont en lice, dont Fornia Simbé qui brigue un troisième mandat. Et toute la question est de savoir si le Togo va reconduire le président sortant ou si le pays va connaître l'alternance. En tout cas, le fichier électoral ne fait plus polémique. Les doublons et les électeurs décédés ont été retirés des listes. Pourtant, Jean-Pierre Fabre, le principal candidat de l'opposition, dénonce le système de collecte et de compilation des résultats. Se dirige-t-on tout de même vers une élection apaisée? Vous êtes nombreux au standard, nombreux à souhaiter commenter l'actualité politique togolaise. On parlera évidemment aussi des priorités du nouveau président. 33 9 693 693 70. Place donc aux questions. Beaucoup de questions après les violences xénophobes en Afrique du Sud. Bilan officiel, 7 morts, même si les associations estiment que ces attaques racistes ont fait 15 victimes. En tout cas, on parle de 5000 déplacés. Bonjour Alexandra Bronjon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Johannesburg. Vous êtes la correspondante permanente d'RFI en Afrique du Sud. Ngabo a une question à nous poser. Il nous appelle de Goma. Bonjour Ngabo.
Allô?
Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Alors d'avance, je vais saluer les auditeurs de la Radio du Monde. Mais d'abord, mes condoléances aux victimes qui ont perdu leur vie en Afrique du Sud. Les choses que je vais dire à propos de ces drames qui s'étaient produits en Afrique du Sud. Oui.
Quelle est votre question, Gabo?
Ma question était de savoir qu'est-ce qui est à la base de la xénophobie en Afrique du Sud.
Ouais. Effectivement, et c'est une question qui revient souvent, Alexandra Bronjon. Les auditeurs ne comprennent pas comment ce pays qui est qualifié de nation arc-en-ciel peut s'en pendre à ce point à des ressortissants africains. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud est touchée par des violences xénophobes. On se souvient évidemment des violences de 2008, et comme à chaque fois, ce sont les mêmes raisons qui poussent les Sud-Africains à s'en prendre aux immigrés africains.
Écoutez, plusieurs facteurs, et je pense que le principal, c'est économique. Le pays a un taux de chômage de 25%, le double chez les jeunes, et 20 ans après la fin de l'apartheid, des millions de Sud-Africains vivent toujours dans des cabanes en tôle, sans eau ni électricité. Donc les frustrations sont très élevées. De l'autre, il s'agit quand même d'un pays où il y a de la richesse, il y a une partie de la population qui vit très bien, des belles maisons, des grosses voitures, des centres commerciaux à l'américaine, ce qui attise les envies, les jalousies. Et puis il ne faut pas oublier que c'est la deuxième plus grosse économie du continent, donc qui attire une immigration venant de tout le continent, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Somalie, mais également Congo et Nigeria. Et cette immigration n'est pas bien acceptée dans un contexte économique difficile. Par exemple, les reproches qui sont faits à ces étrangers, ils prennent nos travaux, ils sont responsables des trafics de drogue, de prostitution, il y en a beaucoup qui sont ici illégalement. Et c'est vrai que la corruption étant élevée, il y a beaucoup d'étrangers qui sont ici de façon illégale.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'étrangers vivant en Afrique du Sud ?
Alors, selon les chiffres officiels, il y a environ 2 millions d'étrangers, soit 4% de la population, mais ce serait bien plus élevé. Certains estiment que ça peut aller jusqu'à 5 millions. Et puis, selon le pays d'origine, vous savez, les intégrations sont très différentes. Alors, par exemple, à Durban, la semaine dernière, j'ai rencontré beaucoup de Congolais qui survivaient de petits boulots, donc tresser les cheveux sur le trottoir, surveiller les voitures dans la rue. Puis, à côté de ça, vous avez les Somaliens, les Éthiopiens, qui ont des petits commerces dans les townships, bien organisés, qui attisent justement ces jalousies. Les commerçants ont été les premier à être ciblé en janvier dernier. Tout d'abord, quand les violences ont commencé à Soweto, à l'extérieur de Johannesburg, les commerçants somaliens étaient attaqués et pillés. Alors, il y avait eu des incidents qui avaient déclenché ces attaques, mais très rapidement, on a reproché à ces commerçants de prendre le travail des Sud-Africains et de créer une concurrence injuste pour les commerçants locaux. Et puis, alors, cette violence qui, au départ, était donc contre ces commerçants étrangers, s'est rapidement transformée en une violence contre les étrangers tout court. C'est ce qu'on a vu à Durban ces dernières semaines et puis à Johannesburg ces derniers jours. Donc là, on parlait du facteur économique qui, à mon avis, est le principal facteur. Mais il y a plusieurs autres petits facteurs qui amplifient cette xénophobie. Par exemple, le fait que l'Afrique du Sud a été très, très isolée pendant l'apartheid, donc n'a pas été mélangée, il n'y a pas eu d'immigration. Ensuite, il y a un fort tribalisme, notamment dans le KwaZulu-Natal, où se trouve la ville de Durban. Et puis le fait que les autorités n'ont pas un discours très clair pour condamner cette violence.
Alors justement, vous parliez des autorités. Ali Blanchard nous rejoint. Bonjour Ali Blanchard.
Bonjour Juan, bonjour Rafi.
On vous écoute.
Moi, je voulais savoir par rapport aux actes barbares et xénophobes qui sont en train d'être faits en Afrique du Sud. Que prévoit le gouvernement sud-africain par rapport à tout ça? Quelle réaction
Ouais, la réaction des autorités. Il a fallu attendre Alexandre Branjon tout de même 3 semaines de violence pour que les autorités, pour que le gouvernement se mobilise.
Oui, les autorités ont vraiment mis beaucoup de temps à réagir. Déjà en janvier dernier, lors des violences de Soweto, les autorités ont refusé de parler de xénophobie, mais plutôt de criminalité. Cette fois-ci, à Durban, elles ont mis 2 semaines avant de réagir, et ça a vraiment été à partir du moment où il y a eu des morts, et notamment un commerçant éthiopien qui a été brûlé vif dans son magasin, que les autorités ont pris la mesure de ce qui se passait, et ont réagi. Alors depuis, en effet, elles ont condamné ces attaques, plusieurs ministres sont allés sur le terrain, à Durban, et le président Zuma lui-même s'est déplacé, donc c'était samedi dernier, donc quand même 3 semaines après le début de ces incidents.
Le président Zuma qui a tout de même annulé une visite officielle en Indonésie pour se rendre à Durban.
Oui, tout à fait. Certains ici vous diront oui, mais c'est la première fois où publiquement il se rendait sur le terrain et il condamnait la chose. Avant, c'était des communiqués. Donc beaucoup d'associations, beaucoup d'étrangers sur le terrain vous diront c'était pas une position suffisamment forte. Donc réaction tardive. Également, pendant longtemps, le gouvernement n'a pas une position claire. En janvier dernier, plusieurs ministres ont tenu des propos un peu ambigus envers les étrangers, donc ce qui a attisé un petit peu cette xénophobie. Pas de condamnation ferme et rapide. Regardez le roi Zoulou, qui est à l'origine de ces incidents. Il a lui également mis 3 semaines avant de prononcer un discours public pour condamner ces violences. C'était hier à Durban. Oui. Bon, la semaine dernière, j'ai parlé à son fils, le prince Toulani, et je lui ai demandé pourquoi est-ce que le roi ne s'exprimait pas publiquement pour condamner ces violences, et il m'a répondu, le roi n'est pas responsable de ces violences, il n'a pas à lancer un appel au calme. Ouais. Voilà. Donc, et puis peut-être une dernière chose aussi, vous parliez des violences xénophobes en 2008, il y avait eu plus de 60 morts et à ce jour, personne n'a été condamné. Donc là aussi, ça envoie un message d'impunité à la population.
Ouais, une violence xénophobe qui reste souvent impunie, et c'est ce que dénoncent d'ailleurs de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. Vous parliez, Alexandra Branjon, à l'instant du roi des Zoulous, qui est la plus haute autorité traditionnelle de la province du KwaZulu-Natal. Effectivement, il est accusé d'avoir attisé ces violences en appelant les étrangers à faire leur bagage et à quitter le pays. Et Clark, qui nous a appelé de Pointe-Noire, nous dit « Mais pourquoi le roi Zoulou a-t-il tenu de tels propos ?»
Écoutez, c'est un discours qu'il a tenu il y a 3 semaines. C'était pas un discours public, c'était un discours avec des chefs traditionnels en Zoulou, dans sa province du KwaZulu-Natal. Alors, dans les extraits traduits que moi j'ai pu entendre, il appelle en effet les étrangers à faire leur bagage et à quitter le pays. Maintenant, lui affirme que ses propos ont été tenus dans le cadre d'un discours plus large sur la criminalité, où il disait que les étrangers responsables de crimes et en situation irrégulière doivent faire leur bagage. Lui, c'est explique ça comme ça. Je vous le disais hier, il s'est à nouveau exprimé là où il a clairement condamné cette violence et il a rejeté toute responsabilité en disant qu'il n'avait jamais appelé les Sud-Africains à attaquer les étrangers. Au final, les propos du roi ont été déclencheurs, certes, mais il a dit tout haut ce que pensent beaucoup de gens tout bas, en tout cas ceux qui habitent dans les townships à Durban, qu'il y a trop d'étrangers, qu'ils prennent le travail. Donc, même certaines victimes à qui j'ai parlé, des victimes de violence à qui j'ai parlé la semaine dernière à Durban, me l'ont dit. Leurs agresseurs leur ont clairement dit, même le roi ne veut plus de vous ici. Donc, ça a été un feu vert, en quelque sorte, pour attaquer les étrangers.
Ouais, des propos qui ont d'ailleurs été repris par le fils aîné du président de la République, le fils aîné de Jacob Zuma. La semaine dernière, un certain nombre d'avocats envisageaient de déposer une plainte contre le roi Zoulou pour son discours de haine. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas ?
Alors, de mémoire, il s'agit de plaintes qui ont été déposées auprès de la Commission des droits de l'homme sud-africaine. La Commission sud-africaine des droits de l'homme. Mm-hmm. Et en effet, il me semble que 2 plaintes ont été déposées. Une contre le roi, Godwill Zwelinthini, et une contre le fils de Jacob Zuma. Donc, c'est Edouard Zuma. En effet, 2 plaintes ont été déposées.
Oui. Merci beaucoup, Alexandra Branjon, d'avoir été en direct avec nous. D'Afrique du Sud, de Johannesburg exactement, et merci aux auditeurs qui nous ont appelés. On aura évidemment l'occasion de revenir sur les violences xénophobes en Afrique du Sud, notamment vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi vous commentez l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. D'autres questions? Nicolas est avec nous, bonjour. Allô Nicolas? Alors, ça vient de couper, me dit-on. Qui avons-nous au standard, si on peut me dire qui on a au standard? René est avec nous, alors. René, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes...
Bonjour à tous les auditeurs du RFI.
On a des petits problèmes de standard ce matin, mais ce sont des problèmes techniques.
Oui, bonjour, Juan.
Mais on vous entend. Vous êtes à Douala. Et vous avez des questions sur les élections législatives en Grande-Bretagne, des élections qui se dérouleront le 7 mai.
Oui, bonjour au roi, mais bonjour à tous les auditeurs de RFI. Oui, j'ai suivi lors d'un reportage sur votre antenne la semaine passée qu'à la faveur de la campagne électorale en cours en vue des législatives en Angleterre, le premier ministre conservateur David Cameron souhaite étendre le droit de propriété. Juan, ayant une famille qui vit en Angleterre depuis 15 ans, je voudrais savoir quelles peuvent être les conséquences d'une telle mesure. Elle est appliquée pour les classes défavorisées.
Étendre le droit à la propriété, c'est l'une des promesses de David Cameron. Philippe Turl, rédacteur en chef à la rédaction anglaise RFI, est à mes côtés. Bonjour Philippe.
Bonjour Juan.
Alors c'est une mesure importante, évidemment, une mesure destinée aux ménages les plus modestes. En 2 mots, elle consiste en quoi déjà?
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de l'époque de Margaret Thatcher, qui était Premier ministre entre 1979 et 1990, mais à l'époque, en 1980, elle avait lancé un vaste programme qui a fait polémique à l'époque pour que les gens qui habitent les HLM aient le droit de les acheter, qui n'était pas du tout permis auparavant. Mmh. Et donc, beaucoup d'HLM ont été vendus dans les années 80 et la conséquence, c'est qu'il y a des gens qui ont pu acheter leur logement avec une grosse ristourne sur le prix de marché, mais il n'y avait pas eu de construction de maisons neuves pour les remplacer. Donc, on se trouve dans une situation aujourd'hui, en Grande-Bretagne, où il y a une manque de logements sociaux.
Il y a une vraie crise du logement, et d'ailleurs c'est l'un des thèmes majeurs de la campagne électorale.
Exactement, et donc beaucoup de critiques à l'égard de l'ancien gouvernement travailliste de Gordon Brown et Tony Blair avant lui, critiquaient pour ne pas avoir construit assez de logements. Donc David Cameron dit, maintenant avec le prix des logements en Grande-Bretagne qui est faramineux, et puis beaucoup de gens ne n'arrivent pas à les acheter. Je vous donne une comparaison si vous voulez. Par rapport à Paris, le loyer payer pour un mois pour un appartement à Paris, c'est la même à Londres d'une semaine. Donc il faut payer quatre fois plus. Et avec 1 million, 2 millions de livres, on a presque un logement normal, mais on peut pas acheter maintenant une grande maison.
Donc en cas de victoire, le 7 mai, David Cameron s'engage à ce que les propriétaires des logements sociaux puissent devenir propriétaires de l'appartement.
Exact. Donc, on parle d'à peu près 1 300 000 personnes qui sont logées dans ces HLM, qui aura la possibilité de les acheter avec 70% de ristourne sur le prix de marché.
70%,
c'est énorme.
Ah oui.
Et donc, c'est pour pousser les gens qui sont laissés à côté de ce qu'on appelle l'échelle de l'achat des logements principaux, qui ne peuvent pas parce que c'est devenu trop cher. Et donc, de leur donner la possibilité d'acheter leur logement. Alors, critique, évidemment, des travaillistes d'Ed Miliband qui est contre David Cameron et sa réélection, mais on se trouve dans la même situation que dans les années 80, donc avec une manque de logements. Réponse de David Cameron, non, cette fois-ci, on va construire des maisons neuves. Donc pour chaque maison qui est vendue, on en construira un autre, et nous, on prévoit de construire à peu près 400 000 logements pendant les 5 prochaines années. Donc ça, c'est le débat en ce moment pour le logement, parce qu'il est vrai, en Grande-Bretagne, maintenant, acheter une maison, ça devient extrêmement compliqué et très très cher.
Merci beaucoup Philippe Turle d'être venu répondre à René qui nous appelait de Douala. On me dit qu'on a retrouvé Nicolas. Vous êtes de nouveau parmi nous, Nicolas?
Oui.
Voilà, vous êtes au Bénin et vous avez des questions sur les propos du pape François évoquant le génocide arménien. C'était il y a une dizaine de jours à peine.
Oui, en effet, monsieur Wan, il y a environ 10 jours, le pape François a parlé dans une homélie de génocide arménien, un sujet qui a le don de fâcher le gouvernement turc, qui d'ailleurs a rappelé son ambassadeur au Vatican.
Oui.
Première question, pourquoi le pape a-t-il tenu de tels propos sur un sujet si délicat? Deuxièmement...
Alors on va déjà répondre à cette première question avec Antoine-Marie Izoard, qui est le correspondant de RFI au Vatican. Bonjour Antoine-Marie.
Bonjour Juan, bonjour Nicolas.
Alors c'est vrai que les propos du pape ont surpris, et ils ont d'autant plus surpris qu'il y a quoi, 5 mois, 6 mois, le pape François était en visite en Turquie, et à l'époque, il avait bien pris garde de ne pas employer le terme génocide. Pourquoi l'a-t-il utilisé cette fois-ci?
Alors évidemment, Rouen, c'était peut-être pas le lieu en Turquie d'en parler, et le pape avait aussi d'autres questions évoquées, hein, comme l'accueil des réfugiés, comme les questions politiques localement et tout ça, mais il faut préciser d'abord que le mot de génocide a pris d'autant plus de force dans la bouche du pape qu'il était prononcé cette fois-ci lors d'une célébration publique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le pape François citait en fait un texte qui avait été signé déjà il y a 15 ans par Jean-Paul II avec un patriarche arménien, et qui assurait à l'époque déjà que le massacre des Arméniens était généralement considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Je dis bien généralement considéré. Le pape n'a pas manqué de faire la liste aussi des autres génocides du siècle passé. C'est aussi pour ça, hein, en réponse à la question de Nicolas, que le pape a parlé de génocide, des autres tragédies, a-t-il dit, perpétrées par le nazisme, le stalinisme, et puis plus récemment, d'autres exterminations de masse, comme au Cambodge, au Rwanda, au Burundi ou en Bosnie. Donc si je crois que le pape François préfère nettement que la diplomatie ne fasse pas d'ombre à la vérité, il est donc resté un peu prudent. Et puis, il faut aussi dire que la dénonciation de ce génocide d'il y a un siècle lui a donné l'occasion de pointer un autre génocide en cours, en évoquant le cri étouffé et négligé, a-t-il dit, de nombre de chrétiens qui sont publiquement atrocement décapités, crucifiés, brûlés vifs, ou bien contraints d'abandonner leur pays.
Donc si je comprends bien Antoine-Marie Izoard, s'agissant du massacre des Arméniens, il n'y a pas un revirement de la position du Vatican, puisque le pape François n'a fait que reprendre des propos tenus par Jean-Paul II.
Ces propos ont été repris, mais peut-être un peu plus visibles, un peu plus forts. C'est une réponse au besoin de vérité. Peut-être que ce 100e anniversaire du génocide, du massacre des Arméniens en 1915, a encouragé le Vatican à le dire un peu plus fort. Voilà, c'est tout.
Commémoration du centenaire du génocide arménien, ce sera d'ailleurs vendredi. Nicolas, très rapidement, votre deuxième question.
Oui, voilà justement Le gouvernement turc a rappelé immédiatement à son ambassadeur quelles sont les conséquences de ce rappel sur les relations entre la Turquie et le Vatican.
Ah, y a-t-il brouille diplomatique entre le Vatican et Ankara?
En deux mots, Juan, le rappel de l'ambassadeur auprès du Vatican, mais aussi la convocation immédiate du nonce à Ankara, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape, somme toute, c'est assez classique et je crois me souvenir que la Turquie avait fait de même, par exemple, lorsque le Parlement français, il y a 4 ans, avait reconnu le génocide. Il faut aussi rappeler certains propos du pape le 12 avril dernier qui ont eu moins d'écho, à savoir qu'il a alors prôné la réconciliation, le dialogue entre Turcs et Arméniens. On se doute qu'il y aura quelques représailles, mais somme toute assez légères.
Antoine-Marie Izoard, en direct du Vatican. Merci d'avoir été avec nous. Surtout, restez à l'écoute des RFI. On revient dans 10 minutes.